Je vais tâcher de parler du célibat des personnes célibataires, comme il m'a été proposé. Le titre, c'est Ludovic qui l'a inventé, mais finalement, je trouve que c'est un bon titre. Donner un sens à mon célibat, je me permettrai simplement d'ajouter un point d'interrogation. Et c'est vous-même qui, au terme de cet enseignement, pourrez retirer ou non le point d'interrogation. Tout d'abord, l'introduction. Je voudrais vous citer une petite phrase de Jean-Paul II, Redemptor Hominis au numéro 10, qui est absolument splendide. C'est la première encyclique de Jean-Paul II. L'homme ne peut pas vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour. Ce sont des mots de feu, hein. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour. S'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience, s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. Ce besoin d'aimer, fin de citation, ce besoin d'aimer quelqu'un et d'être aimé est inscrit très profondément en chaque personne. Toujours Jean-Paul II, dans sa magnifique lettre Mulieris Dignitatem au numéro 29, écrit ceci: l'amour est le seul type de relation qui correspond à ce qu'est une personne. Je redis, l'amour est le seul type de relation qui correspond à ce qu'est une personne, aussi bien d'ailleurs celle qui aime que celle qui est aimée. L'amour, fin de citation, l'amour est la vocation fondamentale et innée de tout être humain. Nous sommes tous faits pour non seulement aimer, mais être aimés. Qu'en est-il des personnes célibataires? Quel écho ces paroles de feu peuvent-elles trouver dans nos cœurs lorsqu'elles retentissent, parfois même de façon douloureuse? Quel sens la vie peut-elle encore avoir pour des personnes restées entre guillemets, et c'est important de bien mettre les guillemets, restées pour l'instant seules dans l'existence? Alors je ne vais pas m'engager dans une phénoménologie, dans une description des différentes formes de célibat. Il y en a évidemment énormément. Certaines personnes n'ont pas le désir, de facto, de contracter une alliance ou alors de rentrer dans une forme ou l'autre de vie consacrée. C'est important de respecter cela et de l'écouter. Pour d'autres, il serait imprudent qu'ils s'engagent dans une de ces deux voies, soit le mariage, soit la vie consacrée. D'autres voudraient se marier, mais en fait, il se fait que pour l'instant, ils ne se marient pas. Et donc, ils vivent leur célibat sous le mode d'une attente d'alliance, d'une promesse, ou alors sous le mode d'une mémoire suite à des ruptures, ou d'un regret même parfois, de divorce, de veuvage. Alors, cet après-midi, je voudrais avec vous nous poser une question très, très simple, mais très fondamentale. Je vous propose de nous engager dans une recherche proprement théologique et non pas psychologique ou sociologique, même si ces recherches sont importantes aussi. La question que je voudrais nous poser, c'est est-ce qu'il y a une consistance propre? Quelle est l'originalité au niveau spirituel et théologique de l'état de célibataire? Je propose d'aborder trois points. Tout d'abord, premier point, le célibat, deux points, consistance propre, point d'interrogation, à la recherche de sa consistance propre. Deuxième point, célibat et maturation humaine. Troisième point, célibat et liberté. C'est un peu théorique, les titres, hein, ne vous inquiétez pas. Les choses vont se clarifier, j'espère, au fur et à mesure de l'exposé. Tout d'abord, premier point donc, quelle est la consistance propre de l'état de célibataire? Il nous faut tout d'abord affirmer avec force l'insuffisance d'une description purement négative de l'état de célibataire. Le célibataire ne serait ni une personne mariée, ni un consacré. C'est parfois ce qu'on entend. Et alors on se demande, mais finalement...